Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir, bonjour à toutes et tous. On refait le match, 10e de la saison, comme chaque samedi soir. Comme chaque samedi soir également, le meilleur, vous le savez, de l'expertise et du décryptage. Pour tous les publics, avec respect, bienveillance, bonne humeur, rires et sourires. À 20h, RTL Foot. Et notamment l'intégralité de Paris Saint-Germain-Dijon et bonus également dans ce RTL Foot avec du rugby France-Pays de Galles, coup d'envoi de la saison du 15 de France. Avec moi, ce soir, la voix ensoleillée dont refait le match, Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, bonsoir.
Bonsoir à tous.
David Aiello, multi-support, bonsoir.
Bonsoir,
un homme
je
moderne.
Bien, tout va bien.
J'aime bien multi-support,
ouais, c'est bien.
Ça fait intelligent. Et Florian Gazan, que vous retrouvez notamment, mais pas seulement, chaque samedi matin, 8h sur RTL, la grosse cote, chronique foot, info et amusante. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Émission 100% interactive réalisée ce soir par l'ami Dany. Bonsoir Dany, filmé sur RTL.fr et la toute nouvelle application avec vos messages sur Twitter, @RTLFoot, relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir tout le monde.
À propos d'infos, Lorient-Marseille, le score est d'un but à zéro pour Marseille à Lorient et on joue la 76e minute dans un instant, le stade du Moustoir. Autre info également, la victoire du Real Madrid à Barcelone en début de soirée, 3-1. Ce sera le sommaire notamment de cette émission pour le Real. Zidane a-t-il sauvé sa tête? 10 minutes de jeu pour Griezmann. Griezmann a-t-il perdu tout son crédit? Nous vous poserons ces deux questions, mais pas seulement. Puis après 19h, les Coupes d'Europe cette semaine, le football français est-il à sa vraie place? À 19h30, crise économique, crise sanitaire, le football pro et amateur, ces deux footballs sont-ils proches de l'implosion? Et puis à 19h45, les tirs au but, vous le savez, c'est la nouveauté dont fait le match. Et surtout, c'est un concept unique, je le rappelle, car ce concept, vous ne le retrouverez pas ailleurs, que ce soit l'émission sportive ou une émission politique, puisque j'arrive avec une batterie de questions sur l'actualité football. Et ces questions, eh bien, elles ne sont pas transmise au débatteur, au chroniqueur.
On tremble.
On confirme.
Ah mais les tirs au but, je le répète, hein, faut être solide sur ses appuis. À tout de suite, vous écoutez.
On gagne rien, non.
Et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Cindy Colmenares, Sébastien Tarago, Florian Gazan, David Aiello et Philippe Audouin en direct du stade du Moustoir pour la fin de la rencontre entre Lorient et Marseille. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Plus que 10 minutes et la Marseille qui mène 1-0 dans une deuxième période plus animée que la première. C'est Balerdi qui a marqué de la tête sur un coup franc de Thauvin à la 54e en profitant d'une erreur, grosse erreur d'appréciation du gardien de Lorient, Paul Nardi, et qui a réussi à marquer malgré un angle absolument impossible, alors que Lorient, deux minutes plus tôt, avait failli ouvrir le score avec un tir de Lorienté qui avait été détourné par le poteau droit de Steve Mandanda, le gardien de Marseille. Il y a des occasions de chaque côté désormais, mais c'est Marseille qui mène à 0 à 9 minutes de la fin.
Les 10 dernières minutes et le temps additionnel en fil rouge dès qu'il se passe quelque chose en compagnie de Philippe Audouin en direct du stade du Moustoir, bien évidemment. On passe, et d'ailleurs on débriefera hein, de Marseille, on parlera également du PSG, on parlera de la Ligue 1 et on mettra en perspective ce qui s'est passé sur les deux compétitions européenne de cette semaine. On en parlera évidemment derrière les informations de 19h. D'abord, l'actualité la plus chaude, le classico, le vrai, le seul, la victoire sans public, on le sait, du Real Madrid à Barcelone sur le score de 3-1. Mademoiselles, messieurs, vous avez tous vu le match évidemment. Quelle impression vous a laissé ce énième classico? On ne s'en lasse pas, Sébastien Tarago?
Alors, il a pu arriver qu'on s'en lasse, mais là, en l'occurrence, c'était un match magnifique. Une première période, surtout, formidable. Et globalement, un très très beau spectacle. Donc, c'était dur derrière de passer sur Lorient-Marseille, il faut bien l'avouer. Mais vraiment, c'était un match magnifique. Il y a plein d'enseignements, j'imagine que vous allez y venir. Mais c'est vraiment un match formidable à regarder.
Ça fait du bien. Le scénario Valverde dès la 5e, Fatih, alors Valverde Real, Fatih Barcelone dès la 8e, ça s'annonçait bien effectivement. Ramos sur pénalty seconde période à la 63e, on discutera peut-être de ce pénalty, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Et Modric, fabuleux, 91e de mémoire, tout en élégance, il a enrhumé une partie de la défense de Barcelone, on y reviendra également. 3-1, même avis,
Évidemment, c'était magnifique, pelouse incroyable, beau temps.
et puis des joueurs, voilà, des top joueurs au top. Franchement, il n'y a pas eu un joueur décevant, surtout en première mi-temps. Ils étaient, les 22 étaient vraiment au top niveau. Et c'est vrai, moi, comme Sébastien, j'avais mis en deuxième écran Lorient OM. Ah, c'était quand même deux salles, deux ambiances. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a un match que j'ai un peu plus regardé que l'autre.
David Aiello.
Oui, oui, non, mais je rejoins évidemment l'avis de mes camarades. Ce qui m'a plu également, c'est que c'était deux équipes dont les dernières prestations n'étaient pas forcément à ce niveau-là. Et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression, bah, compte tenu en plus de tout le pataquès que fait la Liga autour de ce match au niveau mondial. C'est vrai que ça reste le match de championnat le plus diffusé au monde, le plus médiatisé. Donc il y a quand même une énorme pression. Il y avait en plus énormément de pression du côté du Real, du côté de Zinedine Zidane. À ceux qui se posaient la question de savoir si, vous savez, la fameuse question à chaque fois, est-ce que les joueurs ne croient plus l'entraîneur, est-ce qu'ils vont lâcher leur entraîneur. Je pense qu'on a eu clairement une réponse. De la part des joueurs.
Comme il y a un an d'ailleurs, quasiment.
Exactement, même timing. Donc voilà, ça a donné un match très plaisant avec un bon niveau. Moi, je regrette juste, et on va en parler dans quelques instants, les non-changements tactiques de la part de Koeman, parce que je pense que le match s'est un petit peu endormi sur la seconde période où on est resté sur quelque chose d'assez figé. Et j'étais étonné quand même que Koeman réagisse pas plus tôt, dans la mesure où il avait quand même un bond de qualité.
C'est Nicole Ménarès, même avis.
Alors, un match intense, rythmé comme un vrai classico. Mais après, là où je vous rejoins pas complètement, c'est que je trouve que la défense du Real Madrid n'était pas vraiment au rendez-vous. Et d'ailleurs, c'était le même cas en Champions League. Ça commence à être assez régulier chez eux. Et je pense que de ses côtés, il y a encore des améliorations à faire. Après, évidemment, ils ont quand même réussi malgré tout à remporter ces classicos, mais c'est qu'il faut les dire, Zinedine Zidane n'a jamais perdu un classico au Camp Nou, en tout cas depuis très très longtemps.
Non,
jamais en tant que
DT.
Ouais, donc
sur six matchs. Ouais.
Du coup, oui, enfin, c'était un peu, on pouvait s'imaginer ces résultats qu'on a eu.
Alors moi, je serais quasiment du même avec Cindy. Effectivement, c'était un bon match de football, sans public, avec une belle pelouse et un temps magnifique, ouais. Comme le soulignait
ça compte, hein.
Florian Gazan, et ça compte effectivement.
Mais
si vous mettez un instant à la place des deux entraîneurs, alors peut-être un peu moins ce soir à la place de Zidane, mais les largesses quand même des deux défenses,
oui,
parce que Cindy parle de la défense du Real, mais la défense également de Barcelone.
Mais ça c'est autre chose. Si vous voulez qu'on entre sur le thème des défaillances des uns et des autres,
on peut
y aller.
Sébastien.
Mais quand vous nous demandez l'impression générale sur un match, moi je vous dis que j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Et souvent. Il faut bien qu'il y ait des erreurs et des failles dans les équipes pour qu'on prenne du plaisir et des prises de risques aussi, parce que globalement, ce sont deux équipes qui ont pris des risques, qui ont joué au football. Et après, il faut accepter qu'il y ait des erreurs et qu'il y ait surtout des espaces. Se plaindre d'un côté qu'on s'ennuie, et quand il y a des espaces, on va dire les défenses, elles sont nulles.
C'est que la qualité n'est pas la même que celle d'un match de Ligue 1. On est d'accord, on va pas débattre là-dessus, ce serait ridicule.
Non.
Très bien. Mais quand on a les mêmes largesses au sein de deux équipes de Ligue 1, on ne manque pas de les souligner.
Par rapport au match des Champions League, c'est vrai que quand on a vu Varane et la prestation qui était plutôt décevante, on s'attend qu'avec les retours de Ramos, parce que c'est ça qu'on attendait, sans Ramos, il se sent un peu désorienté, toujours Varane, la défense allait être un peu plus solide et compacte. Donc effectivement, moi, en tout cas, je trouvais ces matchs extraordinaires, enfin j'adore les classicos, mais c'est vrai que je continue à avoir quand même quelques défauts qui m'inquiètent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Real est quand même en Champions League, quand on a des joueurs qui commencent à être un petit peu dépassés, comme des Marcelo et autres, qui sont toujours dans l'effectif, oui, c'est quand même inquiétant. Après, ils sont des valeurs offensives qui sont quand même qui permettent de dynamiser les tout et de venir faire mal à la défense du Barça.
David Aiello.
Justement, là tu utilises le terme de valeur offensive. Je pense qu'effectivement il faut avoir cette grille de lecture, c'est ce que évoquait un petit peu Sébastien moi plus que les largesses, j'ai envie de parler de l'état d'esprit. Je pense que les deux équipes, elles sont dans cette dynamique là et surtout quand tu prends les talents offensifs qu'il y a sur le terrain. Donc oui, forcément c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. Donc moi j'ai plutôt le sentiment que c'est dû à un état d'esprit, à des talents offensifs extrêmement grands qu'à des faiblesses défensives. Je regardais un petit peu les stats, le Real a concédé que 4 tirs cadrés sur le match. Donc tu vois, c'est pas...
Je me suis vraiment régalée en tout cas du côté du Barça plutôt, même si c'est pas les gagnants du Classico, avec des joueurs comme Ansu Fati. C'est quand même extraordinaire à son âge de réussir.
Plus et jeune il a buteur fait également... l'histoire du Classico. Hein.
Oui, il y a 17 ans.
Plus jeune buteur. Non mais ce qui était assez intéressant et beau dans ce match aussi, c'est évidemment les attaques ont pris le pas sur les défenses, parce parce qu'il y a un tel arsenal des deux côtés devant que de toute façon, il n'y a pas photo. Puis en face, vous avez à Barça Piqué qui est quand même vraiment qui est farci, quoi. Vous avez Ramos qui finalement devient au fil des années meilleur attaquant que défenseur. Donc forcément, ça prend un peu de.
J'avais pas sur ce terrain.
Piqué est farci.
Piqué, il est farci. Bon, alors, non, mais Ramos, il est encore. Voilà, c'est Ramos, mais il est plus aussi solide qu'il n'était. Varane, donc c'est courant alternatif. Mais ce qui était intéressant dans le match, c'est que la gestion du Real était incroyable, je trouve. Parce que franchement, ils ont quand même été pas mal secoués après l'égalisation de Barcelone. Et ils ont été très, très solides. Et en deuxième mi-temps, ils ont fini beaucoup plus fort. Et avec encore Benzema, qui quand même est assez incroyable dans la gestion du match.
Après, moi, je suis d'accord avec Cindy. Globalement, le Barça a plutôt dominé cette rencontre à mes yeux. Globalement, après, il y a la fin de match, il y a des ouvertures parce qu'il y a des prises de risque et donc ça finit à 3-1. Mais j'ai trouvé le Barça dans la globalité meilleur que le Real.
Bon,
c'est le foot, c'est comme ça.
Mais quand j'ai pas eu l'impression que. Enfin, moi j'ai trouvé que le projet de jeu du Real était plus consistant, en tout cas, ça me paraissait plus solide. Je vois ce que vous voulez dire peut-être sur les phases.
Bêtise. Immense à mes yeux de Clément Lenglet qui a passé son match. Il a passé son match sur chaque coup de pied arrêté à arracher le maillot de Sergio Ramos. Tout le match,
donc
tous les coups de pied arrêtés. Donc
c'est pour l'ensemble de son œuvre que ce pénalty.
Non, pour moi il y a pénalty. Pour moi,
alors on parle de ce pénalty.
Non, mais
on va en parler.
Allez-y.
Parce que pénalty avec un tirage de maillot, alors, c'est flagrant. Quoi. Ouais. Effectivement, il lui touche le maillot, il lui tire le maillot. Ça arrive 250 fois par match, quel que soit le championnat.
Ça arrive beaucoup quand même.
On lui tire le maillot.
Ils sont résistants les maillots.
On lui tire le maillot sur la droite. Hein. Je veux dire, l'anglais essaye de le récupérer sur la droite.
Vous êtes. Allez-y.
Et Ramos, plongeon olympique sur la gauche.
Non, mais après, vous êtes sérieux?
Ah, mais toujours.
Toujours.
C'est ce qu'on me reproche.
C'est vrai.
C'est ce qu'on m'a dit.
Il n'y a jamais de seconde.
Jamais.
Non, mais ni même de provocation.
Souvent.
Mais.
C'est une provocation. C'est jamais de.
Mais honnêtement.
On est d'accord pour l'image.
Et vous savez quoi? Je me fiche royalement qu'il exagère ou ce que vous voulez à la rigueur. C'est-à-dire qu'il lui arrache le maillot. À la rigueur, dites-moi que Sergio Ramos pousse un petit peu l'anglais.
Oui, au début.
Oui, mais pour moi, il pousse l'anglais pour se dégager. Il ne peut pas jouer au football. Ouais. Et là, franchement, parce que j'ai vraiment été attentif là-dessus toute la rencontre. Ouais. Je vous garantis, regardez tous les coups de pied arrêtés de la rencontre. Clément, l'anglais, lui a arraché le maillot à chaque fois.
Non, mais il était mauvais aussi sur ces matchs d'anglais.
S'il lui arrache le maillot, il lui déchire le maillot. Et ensuite,
vous savez, c'est résistant.
C'est très solide.
Mais j'ai un autre avis. Je suis d'accord avec Sébastien sur l'effet qu'effectivement il y a eu ces pénaux. Enfin, moi je ne les remets pas en cause. Mais, alors, qu'en est-il des camps? Il y a Ramos qui vient aussi parce qu'il n'est pas un saint, il n'est pas un ange, il vient aussi embêter pas mal des joueurs du Barça et là il n'y a rien.
Oui, mais on s'en moque ça, Cindy. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty.
Mais s'il y a pénalty pour lui, il y a la pénalty de l'autre côté.
C'est 10 fois amplifié par le ralenti de la VAR.
Mais voilà, mais c'est ça qui m'embête dans cette histoire.
Mais c'est ça les problèmes.
On est sur le
maillot. Mais le
maillot,
c'est pour ça que je te dis
ça. C'est de la radio, c'est dommage. Mais j'invite les auditeurs à tirer leur t-shirt s'ils ont un t-shirt.
C'est-à-dire que l'anglais le ramène vers lui en tirant son maillot, et Ramos.
Mais pardonnez-moi, Christian, mais c'est quand même normal. Si je vous tire votre t-shirt,
c'est de la physique.
C'est de la physique. Mais c'est de la physique. Vous résistez.
Bien sûr, on fait le match.
Bien sûr, on est dans cette partie.
Vous n'êtes pas sérieux.
Merci. Je vous garantis. Moi aussi, je suis très sérieux.
C'est un plongeon. Je veux dire, c'est un plongeon olympique. Je me répète, mais c'est un plongeon olympique.
Vous avez un problème avec les grands joueurs comme Sergio Ramos?
Non, mais moi, franchement, sur cette histoire, de toute façon, voilà, les deux globalement font faute, sauf que Ramos est beaucoup plus malin et rusé que l'anglais qui se fait avoir comme un bleu.
Un bon footballeur, donc.
Ça joue. En plus avec le maillot blanc, quand il tire, on voit que ça. Un maillot de couleur, on voit moins.
Est-ce que vous l'avez remarqué en direct?
David Ayello.
Mais attends, il a tiré sur un mètre.
Après, on le revoit.
Après, il faut être intelligent. Quand tu fais ce tirage de maillot, à un moment, tu lâches le maillot. Tu te doutes bien que c'est Ramos.
Mais oui, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, ce qui m'embête dans ce genre de situation, c'est qu'on est encore. Moi, je vais encore faire le procès du VAR. Mais sur un match comme ça, on est encore à revoir ce ralenti 200 fois pour se dire est-ce qu'il y a péno ou pas. Franchement, ça me fatigue.
Moi, j'ai même pas eu besoin du VAR. Pour moi, il y avait pénalty. Mais franchement. Hein. Franchement, bah, en tout cas, ça, c'est une évidence.
L'arbitre,
mais qu'il aille voir le VAR.
Non, bah oui, mais non, mais
c'est à sa place.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, lui, il est sur le terrain, il le voit pas. Bon, voilà, c'est pour moi, c'est pas manifeste.
Bah oui. Moi, j'en suis encore là.
En tout cas, il a été transformé par Ramos. Ça, c'est tout. Ce que je vous propose, c'est que derrière la pub, mais on va d'abord retrouver évidemment comment l'ami Baptiste Durieux. Baptiste Durieux. Quentin, ce sera.
Ah oui, c'est après.
Je sais pas.
Et derrière la publicité, il faudra quand même qu'on parle de Zidane. A-t-il sauvé sa tête? Et Griezmann a-t-il perdu tout son crédit? Les messages sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux, bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir, et justement Christian, on parle de Zidane sur le hashtag RTLFoot. Nabil qui nous dit: pour la énième fois sous la menace, Zidane a relevé le défi, la pression glisse sur lui, là où elle écrase tous les autres, le plus grand, tout simplement. Message de Johan: les hommes mentent, pas les chiffres, Zidane n'a jamais perdu au Camp Nou en tant que coach, ça c'est Cindy qui l'avait dit en début d'émission. Et puis Maxime: la facilité qu'a Zidane pour garder la tête hors de l'eau dès qu'il est dans le creux de la vague est aussi fascinante qu'inexplicable.
Et retrouvez-moi quelques messages quand même sur penalty ou pas penalty.
Et si vous en trouvez pas, vous vous retrouvez les ceux qui sont d'accord
si
avec
les
ça. Mais ça, c'est comme les micro-trottoirs, vous faites ce que vous voulez.
Non, mais Christian, il est comme l'anglais, il lâche pas. Hein.
Non, mais c'est une consultation, c'est pas un sondage, ce n'est qu'une consultation. Le micro-trottoir, pour les auditeurs, c'est donc un reporter qui se balade sur un trottoir.
Voilà. Avec un micro.
Et qui, en général, qui cherche quelque chose et qui finit par le trouver.
Ça prend 2 jours, mais il le trouve.
Et sur un sujet d'actualité, on pose la question.
On leur posera la question.
18h49, on fait le match avec Cindy Colmenares, David Aiello, Florian Gazan et Sébastien Tarrago. Et vous tous, bien évidemment, vos messages sur le compte @RTLFoot. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match, c'est terminé à Lorient, Lorient-Marseille, Philippe Audouin.
À l'instant même, coup de sifflet final, Marseille qui s'impose 1-0 grâce à un but de Balerdi à la 54e minute. À l'image de la saison dernière, Marseille qui s'impose sans séduire. Et en fin de match, Lorient aurait pu égaliser à 4 minutes de la fin sur un tir de la place, sauvé de manière assez magistrale par Amavi devant son but. Marseille donc qui s'impose 1-0 et qui revient à la hauteur de Rennes à la 3e place du classement.
Merci Lorient, on parlera de Marseille et de la Coupe d'Europe également après 19h. Réaction marseillaise, réaction lorientaise après cette victoire de l'OM, évidemment dans RTL Foot entre 20h et 23h avec à 21h le coup d'envoi de Paris Saint-Germain Dijon. Zidane a-t-il sauvé sa tête? Alors soyons clairs, même si le Real Madrid avait perdu ce classico, les dirigeants madrilènes auraient au moins attendu la Ligue des Champions la semaine prochaine et le match contre Mönchengladbach. On est bien d'accord.
Ah oui, 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 bien sûr.
Mais là,
oui.
Si le Real replonge en Coupe d'Europe,
ça va lui donner de l'air quand même. Mais après,
comme le Real a perdu à Donetsk.
Après, ce monde du football est devenu ridicule et grotesque. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a sauvé sa tête jusqu'à ce que sa tête retourne sur le bio dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà, c'est un garçon qui a gagné beaucoup avec ce club, mais on a l'impression que les dirigeants de ces très grands clubs oublient qu'il y en a qu'un qui gagne la Ligue des Champions chaque année, par exemple, et qu'il y en a qu'un qui est champion d'Espagne. Bon, en l'occurrence, c'était lui. Voilà.
Est-ce qu'il était aussi en danger que cela? Est-ce que il n'y a pas aussi un effet un peu déformateur avec nous-mêmes, les médias, les médias espagnols également?
Ah bah ça, ils aiment ça. Il faut bien qu'ils fassent des coups.
Est-ce que vraiment
il y a des courants, au Real Madrid. C'est pas la première fois, mais d'ailleurs, même Zinedine Zidane l'a reconnu en conférence de presse à la veille du Classico. Lui-même n'a pas démenti tout cela. Il disait au contraire être tout à fait conscient d'être en danger. Donc c'est le poste d'entraîneur au Real Madrid. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule, mais c'est comme ça.
Cindy.
Comme chaque année, mais après un Classico pour les Espagnols, c'est vraiment quelque chose. Donc je pense qu'il n'était pas forcément vraiment en danger, en tout cas pas pour tout de suite. Mais en plus, je pense qu'avec ces Classicos et les résultats qu'il a réussi à avoir, il reste quand même dans une bonne lignée. Après, et je l'ai dit en début d'émission, la difficulté, c'est que j'ai l'impression que Zidane n'arrive pas à renouveler aussi ou à faire des changements, les changements nécessaires pour renouveler ceux qui sont un peu en faille.
Il n'y a pas eu un seul renfort, un seul transfert au Real Madrid. Vous vous rendez compte que le Real Madrid a dégraissé pour 200 millions, c'est-à-dire qu'ils ont fait 200 millions d'euros d'économie et on parle du Real Madrid.
Mais pour moi, il y a un vrai souci sur ce qui se passe actuellement. En fait, on met de côté désormais la compétence
et on fait un instantané. Voilà, il y a une série. Alors, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 matchs où ça se passe mal. Et d'un seul coup, on met de côté les compétences des managers et on arrête. On fait un instantané en se disant, voilà, sur cette série-là, en plus, qui plus est, comme vous le rappeliez, on dégage complètement, on nommait complètement le contexte. Et pour le coup, sur le Real Madrid, il est quand même extrêmement pesant puisque l'effectif n'a pas été renouvelé. On peut penser quand même qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de sang frais dans un vestiaire, c'est quand même assez gênant. Et donc, un entraîneur comme Zinedine Zidane, qui a eu un palmarès extraordinaire sur les 5 dernières années et qui a quand même prouvé, au-delà de ça, des compétences managériales et tactiques extraordinaires, on met tout ça de côté et on se dit, voilà, bon, bah, ça va pas là, donc je ne comprends pas ça. Et surtout, je me dis, si on retire Zinedine Zidane, on va mettre qui à la place, qui va faire mieux que lui?
Venant des médias espagnols, pas de confiance, pas de projet, équipe mal entraînée, groupe totalement démotivé, disait
encore.
Oui,
mais ça, c'est la presse espagnole qui est quand même relativement fatigante au final. Enfin, on le voit à chaque fois avec le Barça ou le Real. Dès qu'il y a un match nul, c'est la crise parce qu'ils ont besoin de. Ils se nourrissent de ça, c'est des piranhas.
Non, mais attendez, là, désolé, mais c'était aussi une défaite historique contre une équipe où la plupart des joueurs, ils étaient des U21. Là, je parle en Champions League contre l'équipe ukrainienne. Bah,
c'est un premier match de poule. Enfin,
Tu balayerais tout. Non, moi, alors, qu'on soit clair, pour moi, Zinedine Zidane a sa place au sein du Real Madrid et il apporte énormément. Mais après, il ne faut pas s'étonner que la presse soit en train de l'épingler parce qu'effectivement, la performance du Real Madrid en Champions League était plus que décevante.
Bon, madame, messieurs, et là, les Zidane joueurs, par contre, on a les provisoirement sauvé sa tête. Est-ce que Griezmann, lui, qui a joué 10
petites minutes, il a perdu sa tête, lui.
Qu'il n'a pas perdu tout son crédit à Barcelone, bien évidemment, à défaut de perdre son football, c'est pas possible, Sébastien Tarrago?
Oui, il a perdu son crédit auprès de son entraîneur. Il n'a pas joué la semaine dernière, enfin en milieu de semaine, il n'a pas joué en Ligue des Champions, pas une minute. C'est-à-dire que tout le monde est entré, tout le monde a marqué, sauf lui qui est resté sur le banc. Après, c'est pas fini, les choses elles peuvent se retourner. C'est la vie du football et avec les gens de talent, on peut toujours envisager. Mais ça va très très mal et ça va très très mal depuis longtemps.
Et c'est pas bon pour l'Euro, c'est pas bon pour Didier Deschamps. Bah,
il n'aurait
pas matière à réfléchir à quitter le
club. Ah si, ça a à voir. Non, si, bien sûr.
Je te laisse compléter, après je donne mon avis.
Franchement, on a vu quand même lors du rassemblement des Bleus, on peut pas dire que Griezmann a été étincelant, qu'il a marqué, mais enfin bon, globalement, je regardais les notes du journal L'Équipe, c'est quand même lui qui a eu la plus mauvaise note sur tout le rassemblement. Tu sens qu'il est un peu perdu. Le foot, ça fonctionne aussi à la confiance. Alors oui, quand il est en équipe de France, c'est le cocon, Deschamps le couve, il a besoin d'affection, mais la confiance du footballeur, c'est hyper important. Et quand t'arrives du Barça où tu joues pas, où t'es traité comme ça, bah, en bleu, tu peux pas faire d'étincelles.
En fait, mon avis, c'est que Griezmann en équipe de France et à Barça, ça n'a rien à voir. D'un côté, on a Coman qui quand même insiste et focalise tout sur les côtés gauche. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Griezmann, parfois, il essaye d'aller un peu vers les centres pour récupérer les ballons, parce que sinon, ça reste...
Sinon,
ça reste... Oui, effectivement, mais c'est juste de comprendre aussi pourquoi ça ne fonctionne pas à Griezmann. C'est ça le plus essentiel. Et en fait, il essaye d'aller un peu au centre. Il y a Messi, donc
mais
à chaque fois,
faute.
Ça ne fonctionne pas.
Non, mais franchement, là, il y a un moment, moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est de la faute d'Antoine Griezmann si ça ne va pas. Il a fait un mauvais choix, certainement, parce qu'il ressemble trop à Lionel Messi. Mais après, il y a 10 jours, il a eu deux occasions énormes dans la surface de réparation. Il les a ratées. Et là, il y a un moment, c'est plus une question de positionnement. Donc, je suis désolé, c'est à lui aussi, dans ses grands clubs. C'est les grands joueurs qui se révèlent.
Non, et puis en plus, je pense que là, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on voit bien que Coman comme a quasiment fait un trait sur Griezmann. Il a quand même déclaré cette semaine, oui, on verra peut-être qu'il sera aligné d'entrée face au Real. Finalement, il lui a donné 10 minutes de temps de jeu alors que son équipe était menée. Je veux dire, tout est dit.
18h58, on tourne une nouvelle page de publicité, les informations de 19h. Vous avez le choix, vous pouvez faire, vous savez, comme à l'époque, la une est à vous le samedi après-midi.
Ah,
Bernard Gollet, on continue de parler de Griezmann derrière les informations de 19h ou on parle des clubs français en Coupe d'Europe? Je vous laisse le choix.
Pour moi, les clubs français,
on vote.
Griezmann.
Oh, un petit peu de Griezmann encore, allez.
Ok.
Griezmann.
Voilà. Allez, moi, c'était les clubs français.
Un petit peu de Griezmann. Et le foot français. À tout de suite, publicité.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Il est 19h. Les informations, Romain Houg. Bonsoir Romain.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Ce sont des propos inacceptables. Réaction ce soir de l'Elysée aux déclarations de Tayyip Recep Erdogan. Le président turc a vivement critiqué à la télévision l'attitude d'Emmanuel Macron envers les musulmans de France, remettant en question, je cite, sa santé mentale. L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous n'acceptons pas les insultes, a répondu Paris dans un communiqué qui annonce au passage le rappel pour consultation de l'ambassadeur de France à Ankara. L'Elysée qui note également l'absence de condoléances de la part d'Erdogan après l'attentat terroriste qui a visé l'enseignant Samuel Paty la semaine dernière. Nous allons encore avoir des moments difficiles. Déclaration de Jean Castex à son arrivée à Marseille tout à l'heure. Le Premier ministre est en déplacement aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran. Tous deux ont rendu visite aux soignants de l'hôpital nord de la ville particulièrement affectés par l'épidémie. L'épidémie justement qui atteint des niveaux records en France. La barre du million de personnes testées positives a été franchie. Hier, de nouveaux départements sont désormais soumis au couvre-feu de 21h à 6h. 54 aujourd'hui au total. Cela représente plus des deux tiers des Français astreints au confinement nocturne. Dans le même temps, les députés ont approuvé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire cet après-midi. Le projet de loi prévoit de l'allonger jusqu'au 16 février prochain au moins. Le texte devra maintenant être étudié par le Sénat la semaine prochaine. Et après le maire de Bron, le maire du 8e arrondissement de Lyon a été la cible de tags sur une école du quartier. « On va te décapiter la tête », pouvait-on lire ce matin sur l'établissement. L'édile de Lyon, Grégory Doucet, condamne des inscriptions d'une violence inqualifiable. Une enquête est en cours. Le Conseil français du culte musulman réfléchit à un plan de lutte contre toutes les formes de radicalisme et d'extrémisme. Parmi les pistes de travail, notamment un programme de formation des imams. Hier, à la sortie du Conseil de défense, le Premier ministre a assuré vouloir voir sanctionner les auteurs de publications en ligne dévoilant des informations personnelles qui mettent en danger la vie d'autrui. Cinq membres de la famille de la jeune fille musulmane qui avait été tondue ont été expulsés vers Sarajevo ce matin. C'est l'annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En août dernier, à Besançon, elle avait subi les coups de ses proches et ses cheveux rasés parce qu'elle fréquentait un jeune serbe chrétien. Le retour du 15 de France après 7 mois d'absence des terrains, c'est dans 2 heures. Désormais, les hommes de Fabien Galthié reçoivent le Pays de Galles dans un stade de France tristement vide. Match à huis clos dans ce contexte pandémique. Coup d'envoi à 21h. Il est 19h03 sur RTL. La suite dont refait le match, c'est avec vous Christian Olivier.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
19h05, on fait le match en compagnie de Cindy Colmenares, David Aiello, Florian Gazan et Sébastien Tarago. Je vous rappelle que Marseille, tout à l'heure, est allé gagner à Lorient sur le score d'un but à zéro grâce à Leonardo Balerdi, l'Argentin. On en parlera de Marseille dans un instant. On va parler également de Griezmann. On va prolonger un peu le débat sur Antoine Griezmann. Mais c'est le coup d'envoi également de la Ligue 2, Baptiste Durieux.
7 matchs à l'affiche. Clermont-Ajaccio, 3, Valenciennes, Pau-Niort, Châteauroux-Paris FC, le leader. Toulouse, Rodez, Dunkerque, Le Havre et Auxerre-Chambly. Et un peu plus tôt dans la journée, c'est Caen qui s'est imposé face à Guingamp sur le score de 1 but à 0.
Et une dernière minute qui nous ramènera au débat de 19h30 sur le football français en vrac, dans son organisation et dans ses calendriers, qu'il soit d'ailleurs professionnel mais également amateur. On apprend que le match Lens-Nantes prévu demain à 13h, eh bien ce match est reporté. 11 cas de coronavirus du côté du Racing Club de Lens.
Record de France.
C'est beaucoup.
De Ligue 1.
C'est beaucoup. Et ça risque de ne pas être terminé pour les journées à suivre. On en parlera à 19h30 si vous le voulez bien. Vous souhaitiez prolonger le débat quelques instants encore sur Antoine Griezmann. A-t-il perdu tout son crédit à Barcelone? Vous sentez évidemment en pointillé la question venir. Doit-il rester à Barcelone? Peut-il rester à Barcelone dans ces conditions?
Mais il n'a pas le choix aujourd'hui. Parce que qui aujourd'hui, quel club va investir et surtout lui donner le salaire qu'il touche à Barcelone avec la crise que nous traversons? C'est une situation très difficile.
Un footballeur vous avez bien constaté ne peut pas faire de sacrifices financiers par les temps qui courent.
Non, on peut envisager un prêt, ceci dit.
Oui, un prêt
pourrait le sauver.
Excuse-moi, Sébastien.
Non, mais oui, il y a le prêt. Alors, il y avait le cas de Coutinho au Bayern Munich la saison passée. Coutinho, qui allait très très mal lui aussi au Barça, revient et joue. il est devenu titulaire, donc pourquoi pas envisager cela. Mais faudra quand même payer son salaire. Alors les sacrifices financiers, oui, quelques-uns peut-être, mais enfin pas. Ils font pas n'importe quoi. Et je peux le concevoir. Moi, j'avais envie de parler de Griezmann parce que aussi pour parler de l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui vous avez un Raphaël Varane qui traverse une période difficile. Vous avez, sur le côté droit, j'en parle même pas, globalement, on est très faible, mais bon, Raphaël Varane passe des moments difficiles, l'Anglais traverse des moments très difficiles aussi depuis 2-3 mois. Paul Pogba est devenu remplaçant à Manchester United, il est à nouveau remplaçant là actuellement lors du match contre Chelsea.
Gilles Verdez, dans Fait le match samedi dernier, voulait absolument qu'on pose la question suivante: est-il le meilleur milieu de terrain du monde?
J'ai entendu pour lui, oui. Oui, mais moi je suis d'accord.
Mais pourquoi, regardez.
N'Golo Kanté, il joue.
Juste pour finir, après, j'arrête. N'Golo Kanté n'est plus le N'Golo Kanté qu'on a connu. Antoine Griezmann va pas très bien. Bon, il y a du temps avant l'Euro.
Heureusement,
il
y a Giroud.
Il faut espérer. Bah, Giroud ne joue plus non plus, évidemment, bien sûr.
Oui, mais ça c'est normal. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça c'est classique. Mais si vous prenez le 11 titulaire de l'équipe de France. Là, sur une photo instantanée, ça va mal. Ça va mal. Mais c'est pas grave. Ça peut aller très bien d'ici quelques mois.
Alors, Griezmann ou Pogba? Parce que là, on est en roue libre.
On va parler de tout. Mais moi, juste pour répondre à Sébastien, j'exagère évidemment. Mais en fait, Pogba, moi, je considère que s'il y a vraiment un joueur qui a venu changer les visages du Manchester United et qui a fait que le Manchester United a gagné ses matchs, au-delà de l'entraîneur qui a fait les bons choix au bon moment, on les fait sans entrer, c'est bien Paul Pogba. Donc,
moi, je pense que c'est Fernandez.
Oui, mais là, la question, on va.
Je pense que c'est Fernandez qui a changé.
Je pense que c'est plutôt.
Qui a changé le visage, mais en tout cas, visiblement, l'entraîneur de Manchester United, lui, il pense qu'il a tellement bien changé le visage de Manchester United qu'il le met sur le banc quand même.
Non, mais là, c'est les derniers.
Moi, je parle d'actuellement, il traverse un moment.
Il a vraiment dynamisé les milieux.
J'adore Paul Pogba. Je pense que c'est l'homme le plus important en équipe de France, Paul Pogba, à la Coupe du Monde 2018. Mais je dis juste qu'il traverse un moment très, très, très délicat.
Et si on veut répondre à la question, pour la question de notre ami Gilles, on va pas juger sur un match ou sur deux matchs. Encore une fois, on est obligé de constater que sur la régularité, notamment depuis la Coupe du Monde, il y est plus. Enfin, je veux dire qu'il a eu des phases extraordinaires, c'est un fait. Et il en aura d'autres.
Concernant Griezmann,
pour revenir à Griezmann, en faisant un parallèle avec Pogba, finalement, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément fait des très bons choix de club. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Pogba, qui est un super joueur. On peut pas dire que son passage à Manchester est absolument exceptionnel. Et ça fait quand même.
Je peux même dire que c'est un échec.
Voilà, c'est un échec. Et Griezmann, c'est pareil. Moi, ce qui me fait peur sur Griezmann, c'est qu'il s'entête. C'est que pour des questions d'orgueil, je ne sais quoi, ils se disent non, je veux absolument m'imposer à Barcelone, quoi qu'il arrive.
Mais qu'est-ce qu'il peut faire là actuellement?
Déjà se mettre dans la tête qu'il s'est peut-être planté, ça arrive de faire des erreurs dans une carrière.
Il s'est posé la question.
Mais un prêt est possible.
Ça change tout quand même. Si le joueur demande à partir, enfin commence à dire bon voilà, je reconnais, j'ai peut-être fait une erreur, va voir ses dirigeants. Je vous rappelle quand même que le Barça est dans une situation économique catastrophique. Donc,
comme
ça
beaucoup de clubs. Mais eux, notamment.
Parce qu'on rappelle qu'ils ont la masse salariale la plus lourde d'Europe. Si eux venaient à perdre quelques dizaines de millions d'euros sur la durée en termes de salaire, en tout cas en termes de prêts, je pense qu'il le verrait d'un bon œil.
Mais sur le plan du jeu, il a aussi peut-être et sans doute une part de responsabilité. Raymond Abou, qui va participer et qui participe chaque week-end aux émissions, m'envoie un message en me disant, bon, ne pas jouer aujourd'hui, c'est une chose, il m'envoie ce message par SMS, mais se faire prendre sa place par un môme de 17 ans, ça
peut être...
Vous avez vu comment il joue, le môme de 17 ans? Vous savez, un jour, Lionel Messi, il a pris la place de quelqu'un.
Non, mais en fait, soyons précis, Griezmann, il ne reste que 12 options. Soit, il reste et du coup il sera forcément, je pense, sur les bancs, et c'est dommage. Pourquoi? Parce que cette équipe, il ne faut pas l'oublier, le Barça est très centré sur Messi, et effectivement quand on voit que l'entraîneur veut vraiment faire jouer du côté gauche et que du côté droit ça ne fonctionne pas, du coup il n'a que ces choix-là, ou alors il part à la trêve hivernale, lors du mercato, et puis il va trouver une équipe où effectivement, parce que Griezmann, il faut pas l'oublier, il joue quand même très bien en équipe de France. C'est pour ça que justement il y a cette attente au Barça, parce que on voit l'équipe de France, et il faut savoir que toutes les équipes ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas, et le Barça est très centré sur Lionel Messi.
S'il est très centré sur Lionel Messi, et s'il prend ses responsabilités, Ronald Koeman, tout Messi blessé qu'il est, avec ce qui vient de se passer, moi, je le vois jouer ce soir contre le Real Madrid. Lionel Messi, il me fait pas une impression folle. Hein.
Enfin, c'était pas le pire.
C'est quand même les meilleurs buteurs du Classico. Non, mais quand même.
Après,
le meilleur buteur du Classico, des Classicos passés.
Non, mais
je parle du match de ce soir. Vous l'avez
parlé. Non, Lionel Messi, il a failli marquer.
Je trouve en jambe. Je trouve qu'il va bien.
Après, sur le match de ce soir, que Griezmann rentre à la 81e, alors qu'il y a non pas un, mais deux gamins de 17 ans sur le terrain, parce qu'il y avait également le jeune Pedri.
Franchement, c'est une humiliation.
Et que Pedri, on peut pas dire non plus qu'il ait fait un match
délirant. Ils sont très bons. C'est pas quel âge.
Ça devient grave.
Mais c'est pas quel âge, c'est aussi les capacités. Vous avez vu les matchs.
Pedri, il a pas fait un match. Gonzalez, il a pas fait un match.
Oui, mais Pedri, il est très connu en Espagne. Il faut pas oublier. Non, mais il faut pas oublier que c'est un joueur qui a quand même été en U19 ou 18.
À chaque fois, à un moment donné, qu'on est mené 3-1 ou 2-1 par le Real Madrid dans un classico, que Pedri en touche pas une, parce qu'il en a touché aucune aujourd'hui.
Mais pourquoi?
Et plutôt que prévu.
Pourquoi?
Mais parce qu'il ne servait à rien, Pedri.
Il rate tout.
Mais
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il faudra bien qu'il
relance Antoine Griezmann.
Mais il faudra bien qu'à un moment donné, il rate moins quand même.
Christian, on peut pas. Alors, juste une chose par rapport à l'humiliation. On ne peut quand même pas dire que le FC Barcelone, dans sa globalité, n'a pas fait confiance à Antoine Griezmann. C'est-à-dire qu'il a traversé toute la saison passée comme une ombre, et pour autant, il a continué à être titulaire.
Ça se discute. Mais si, il n'adressait pas la parole et pas beaucoup de ballons. Son positionnement, c'était pas exactement le positionnement qu'il aurait souhaité.
Oui, mais ça, c'est pas
sa faute. Quand vous venez au FC Barcelone, vous savez que Lionel Messi, il joue dans l'axe. Hein.
Non, mais c'est de sa faute. C'est de sa faute, Christian. En fait, non, mais c'est de la faute de Griezmann de A à Z. Encore une fois, on va pas revenir sur son documentaire. Mais quand vous dites, je préfère rester à l'Atlético que venir au Barça avec un an après, vous venez au Barça, vous pouvez peut-être vous attendre à ce que vous ne soyez pas accueillis à bras ouverts. Il fait le péché originel, il est là. Après, moi, ce qui me fait peur aussi pour Griezmann, c'est qu'on sait très bien que Koeman rêve de faire venir Depay, ça ne s'est pas fait là, mais si ça se fait cet hiver, ce sera un joueur encore en plus dans les pattes de Griezmann et lui sera titulaire.
Bah, vous rappelez les états de service, effectivement, et la faute de quart de Griezmann.
Mais c'est énorme.
Rappelez celle qui est très légère, hein, celle de Lionel Messi à l'intersaison.
Oui, mais enfin, c'est pas le même statut. C'est comme.
Non, mais on est d'accord. Mais enfin, voilà. Si Koeman.
Sauf que le vestiaire n'en veut pas Lionel Messi. C'est comme ça.
Parce que le vestiaire pense que Messi.
Sinon, la vie est injuste, oui, si vous voulez.
Il a fallu 20 minutes pour entendre cela. Mais c'est la vérité.
Oui, puis il y a une autre
chose. Le vestiaire ne veut pas de Griezmann.
Mais non, mais ça, c'est le début.
Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, que ça s'est amélioré et tout ça. Mais c'est la réalité de la saison passée, bien sûr. Mais on l'a dit 100 fois.
Et on l'a vu.
Globalement, on l'a vu. Mais après, à un moment, Antoine Griezmann, il a joué des matchs et il n'a pas été bon. C'est le sport de haut niveau.
Vos avis sur notamment le compte @RTLFoot Baptiste Durieux.
Et sur Antoine Griezmann, justement, message de Joe. Griezmann est entré, j'ai même pas su qu'il était là. Voilà, tout simplement. Message de Nabil, je pense que l'arbitre a touché plus de ballons que Griezmann ce soir. Une fois de plus, il a signé au Barça pour jouer des 10 minutes. Message de Tristan. Pedri à la place de Griezmann, à la place d'un champion du monde, d'un vainqueur de Coupe d'Europe, d'un finaliste de Ligue des Champions, du leader de l'équipe de France, de l'ex-star de l'Atlético, de l'ancien 3e du Ballon d'Or. C'est terrible. Et puis l'analyse assez intéressante de Bastien avec cette statistique sur Lionel Messi. Il nous dit Messi n'a plus marqué dans un classico ni délivré de passe décisive depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Un départ qui a affaibli le Real, certes, mais qui a aussi détruit la plus grande rivalité de l'histoire.
C'est une réalité, messieurs, relevée par nos auditeurs, très affûtés. À propos d'auditeurs, avez-vous quand même quelques avis sur ce pénalty tout à fait contestable?
Ah, on y revient.
Est-ce que je peux donner un conseil à ce jeune homme qui est sous votre autorité? Trouver des gens qui râlent contre le pénalty. Hein.
Non, Baptiste,
surtout, il faut trouver des gens qui disent qu'il n'y avait pas pénalty si tu veux garder ta place.
Intègre.
Lui.
Je vais faire un tweet sous un faux nom, comme ça vous aurez votre truc.
On n'est plus dans le micro-trottoir, on est dans le micro-twitter.
Donc, Baptiste, ou pas.
Non, j'ai quelques messages, alors je ne sais pas si vous allez être satisfait, Christian Thomas, qui dit je pourrais dire à mon gosse que j'ai vu un pénalty contre le Barça dans un classico au Camp Nou, c'est vraiment historique. Ils sont plutôt surpris du fait qu'il y ait un pénalty, effectivement, au Camp Nou, ce qui était quasiment jamais arrivé. Message de Louis qui nous dit tirage de maillot égale pénalty, point final. La simulation de Ramos et son plongeon, certes du mauvais côté, est grotesque mais pleine d'expérience, nous dit Louis. Et voilà.
Oh bah n'en rajoutez pas. Vous voyez l'intégrité de Baptiste Durieux, Sébastien Tarrago.
Il n'y a rien du côté de
voilà, il est courageux. Mais bon,
c'est pas ce qu'il
lui. Il est tellement courageux qu'il va changer maintenant de ballon pour aller sur la Ligue 2. après le Classico, la Ligue 2.
Ah, c'est le même ballon quand même. Hein.
Un quart d'heure de jeu, Baptiste.
C'est pas
un...
le même pied. Exactement. Un seul but marqué pour l'instant par Valenciennes sur la pelouse de 3-1-0 et puis toujours 0-0 sur les autres pelouses. Clermont, Ajaccio, Pau, Niort, Châteauroux, Paris FC, Toulouse, Rodez, Dunkerque, Le Havre et Auxerre, Chambly. Et plus tôt, c'est les anciens pensionnaires de Ligue 1, Caen et Guingamp qui se sont affrontés et Guingamp s'est imposé 1-0 face à Guingamp.
Et je vous rappelle que Grenoble-Nancy de mémoire a été reporté également à cause de coronavirus et en Ligue 1, c'est une dernière minute, c'est Lens-Nantes prévu à 13h demain, 11-4 coronavirus à Lens, match reporté également. Publicité et ensuite le foot français et les coupes européennes à 19h16 sur l'antenne de RTL. C'est On fait le match jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec le football français. Est-il à sa vraie place consécutivement aux résultats de cette semaine? Je vous rappelle le bilan. 1 nul, 3 défaites, 1 victoire. Le PSG battu à domicile par Manchester. Marseille battu en Grèce par Olympiakos. Rennes, résultat nul à domicile. Leverkusen qui étrit Nice. Et seul Lille qui l'emporte assez facilement sur la pelouse du Slavia Prague. Alors le football français est-il à sa vraie place? En tout cas, en Ligue 1, Marseille est quatrième ce soir, après sa victoire à Lorient, 1-0. On attendra le résultat de Paris Saint-Germain-Dijon. Mais sur le plan européen, finalement, Sébastien Tarrago.
Mais ça aurait pu être moins pire, parce que tu pourrais envisager que Marseille aille gratter un point, que Paris gagne, etc. Mais oui, globalement, c'est pas une surprise. Enfin, voilà, Rennes a gagné. En Ligue Europa, pardon.
Lille
a gagné, c'est déjà pas mal. Ça aurait pu être pire. On est moyen. Chaque année, on répète la même chose. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. De toute façon, c'est logique. Nos meilleurs joueurs s'en vont à l'étranger chaque année. Et ce qui se passe actuellement, ne va pas arranger nos affaires. Je vois pas comment ça peut s'arranger. Il y a eu quand même. Bon, la parenthèse enchantée de la Ligue des Champions au mois d'août.
Ils sont mal, en tout cas, ouais.
Mais ce qui m'étonne, c'est que vous disiez, attendez, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être un accident de parcours. Parce que là, quand je dis, est-ce que le football français est à sa vraie place, j'inclus le Paris Saint-Germain.
On fait une photo de la semaine. Et qu'effectivement, si on prend la photo de la semaine, le Paris Saint-Germain est tombé dans les travers du football français habituel. Après, là où c'est logique également, Sébastien, c'est que le football français vit depuis des années dans un déni. C'est-à-dire qu'on se focalise uniquement sur la valeur économique financière du football, de la Ligue 1 en l'occurrence, donc des 600, des 700, des 800 millions, voire des 1 milliard, pour se dire, on fait partie des 5 grands championnats européens. Mais arrêtons avec... Ne serait-ce que l'expression en soi me donne des boutons, je vous le dis franchement, parce que si vous regardez le palmarès européen sur les 20 dernières années, eh bien vous avez la Turquie, le Portugal, l'Ukraine, la Russie qui ont gagné des coups d'or.
Je suis pas sûr que l'Angleterre,
tu es sûr du contraire. Donc, je veux dire... Déjà, s'il n'y avait pas ce déni-là, si on pouvait faire déjà un état des lieux réaliste en se disant « Ok, le football français de club », parce qu'à chaque fois, on nous sort aussi la vieille tarte à la crème, mais on est champion du monde. Mais c'est pas la question, la plupart des joueurs jouent à l'étranger. Le football français de club est pas bon. Il est cinquième, mais décroché des quatre premiers.
Il est cinquième très très loin, ouais, c'est ça. Il est plus proche du sixième que du quatrième.
Oui, mais alors, on est d'accord sur le constat, mais à l'énoncé de ma question, je vois Cindy Colmenares grimacer en me disant que je suis injuste au vu de ce qui s'est passé cette semaine.
Injuste.
Comme le pénalty sur l'enjeu.
Non, je vous trouve un peu dur parce qu'on oublie aussi que Rennes, pour moi, a fait un bon match. Je sais que ça s'est fini par un match nul et je comprends qu'on avait peut-être beaucoup plus d'envie, surtout avec les déchets techniques de l'équipe adverse.
Franchement, Rennes a été surcomplimentée.
Pardon ?
Comme d'habitude.
Surcomplimentée. Comme d'habitude. Franchement, objectivement.
Moi, je l'ai trouvé. Dominateur. J'ai trouvé des joueurs clés comme Kamavinga qui étaient vraiment en feu en première mi-temps. Ils ont eu pas mal d'occasions. Après, c'est quand même normal pour une équipe qui rentre en Champions League d'essayer de protéger.
C'est Krasnodar.
Mais j'ai pas dit le contraire. Mais tu te protèges quand t'es en.
Il a manqué la moitié de l'effectif.
Oui, mais tu te protèges quand t'es en Champions League. Donc une fois qu'il marque ses buts, c'est normal aussi qu'il y ait cette envie de parfois. Bon, elle est quelques pressings et puis c'est protégé. Donc pour moi, ils sont quand même, pour l'instant, un parcours en Champions League. C'est juste un match, mais honorable. Et les PSG, ils ont marqué. Là, c'est pour moi, c'est ceux dont on attend les plus, donc forcément, on est plus sévère avec eux. Et je considère qu'effectivement, les PSG auraient dû donner beaucoup plus. J'ai trouvé des joueurs qui marchaient sur les terrains, avec tous les travers qu'on a connus au PSG. Et c'est sur eux que je pourrais être un peu plus sévère.
Paris, c'est un peu un cas à part, je pense. De toute façon, le club, en ce moment, c'est très, très compliqué. Il retombe sur terre après la finale. Bon, avec tout ce qui se passe en interne, je pense que Paris, c'est un cas qu'il faut mettre à part. Après, les autres clubs français, chaque année, c'est la même. C'est ah, ils auraient dû, ils auraient pu, ah, ils auraient pu. L'année dernière, Lille, ah, bah, ils auraient pu faire mieux, mais ah, ils ont fait des beaux matchs, mais ah, ils n'ont pas gagné les matchs. Et bah, Rennes, c'est pareil, ah, ils auraient pu, mais ils n'ont pas réussi à
Lille,
gagner.
Lille, c'est pas les meilleurs exemples, parce que Lille a fait un très bon parcours.
Ils ont fait l'année dernière, Ligue des Champions, Lille, il y a plein de fois, à la fin des matchs, vous dites ah, ils auraient, c'est dommage, hein, ils auraient mérité mieux. Mais oui, mais mérité
points,
mieux.
Il faut les prendre face à Krasnodar, ouais, mais, il y a
sur ce que dit Florian, il y a quand même quelque part, moi, je trouve toujours en filigrane dans ces matchs-là, une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que Krasnodar ou d'autres, mais tous les clubs qu'on joue en Ligue des Champions, en Ligue Europa, nous montrent autre chose. Nous avons l'impression qu'à
chaque
fois.
C'est quoi pour vous l'état d'esprit?
Bah, je sais pas, c'est une manière
pas de motivation, parce que si vous me dites qu'ils sont pas motivés pour jouer un match de Ligue des Champions,
non,
ça tient pas la main.
Je sais pas, c'est peut-être l'agressivité qu'on peut avoir sur toute la durée du match, l'intensité. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression que les adversaires des clubs français en veulent plus. Il y a ce supplément d'âme qu'on n'a pas.
Oula, pas classe. Alors là, c'est pas les bons exemples si tu parles du match Rennes-Krasnodar, parce qu'eux, ils ont vraiment eu que des déchets techniques. Ils n'étaient pas très bons. Ils mettaient pas beaucoup d'intensité, c'était plutôt du côté des Rennes.
Ils ont fait un à l'extérieur, et vous les regretterez les points pas pris contre Krasnodar à domicile.
Moi, j'ai trouvé que dans l'attitude, honnêtement, de tous les clubs français actuellement en Champions League, c'est lui qui avait la meilleure attitude, c'était Rennes.
Et Marseille,
c'est une réalité.
C'est cruel, Valbuena qui a dit en substance, grosso modo, hein, j'ai pas vu une équipe. Hein.
Bah, nous non plus.
À la fin du match.
Nous non plus. Après, honnêtement, Marseille, franchement, c'est mal payé cette défaite. Ils doivent faire match nul. C'est plus logique sur la vue du match. Après, d'ailleurs, hommage
t'as
à Jean-Pierre.
T'as pas vu l'équipe, mais ils auraient dû faire match nul.
Si, non, mais sur la vue du match, ils doivent pas perdre. Ils sont gentils. Non, ils doivent pas perdre. Ils ont des opportunités. Mais enfin, Marseille, à chaque fois, ils montent pas grand-chose. Ils ont des opportunités. Là, t'avais Benedetto qui a pas mis une balle devant. Payet, on en parle même pas. Thauvin qui était pas non plus trop là. Et c'est quand même Valbuena qu'il faut rendre hommage à 36 piges qui quand même fait gagner. Match de malade.
C'est ça l'état d'esprit.
Exactement.
Pardonnez-moi, mais alors c'était l'Olympiakos en face, donc effectivement, on peut se dire ils auraient pu faire mieux. Ok, mais si vous regardez l'effectif de l'Olympique de Marseille, mais personne ne veut de ces joueurs parce qu'ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions. C'est tout, on est à notre place. Regardez l'équipe, c'est pas une surprise.
Oui, mais quand même contre l'Olympiakos, Seb, tu vas me dire que là, sur ce match-là, là on joue sur la semaine, sur cette semaine-là. Globalement, la semaine des clubs, elle est pas bonne. Je veux dire, en termes de potentiel. On doit faire mieux quand même.
Bon, et Paris Saint-Germain,
tu peux faire mieux.
Le Paris Saint-Germain totalement disloqué tactiquement. Hein. Ça a été épouvantable. Et Tourelle qui s'énerve en conférence de presse, non pas derrière ce match-là, mais pour préparer Dijon. C'était parlez-moi de Dijon, mais arrêtez.
Mais parce qu'il sait qu'il est en tort. En fait, je suis désolée. C'est vrai que les joueurs, ils ont manqué d'envie et tous les travers qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que c'est côté tactique, l'autre entraîneur lui a donné une bonne leçon à Tourelle. Il a pas fait les changements au bon moment. Il avait une équipe qui clairement était un peu trop même prévisible. Parfois, c'est toujours la même organisation. Et il y a quand même, en fait, au Paris Saint-Germain, t'avais quand même Mbappé qui avait sa vitesse, qui était quand même en train de pas faire non plus un mauvais match.
Ils se sont éteints rapidement. Hein. Au bout d'un quart d'heure, il y a Mbappé.
Moi, je pense que ce club est inentraînable.
Pardon ?
Je pense que ce club est inentraînable.
Quand même pas.
C'est-à-dire que Laurent Blanc était là, on le critiquait. Unai Emery est arrivé, ça a été pire, une catastrophe. Thomas Tuchel arrive, ça allait un peu mieux. Et là, on retrouve les mêmes problèmes.
Est-ce que c'est pas le faible, le lot de tous les grands clubs très médiatisés ?
Non, parce que ce club,
regarde en Espagne, par exemple, le Real, c'est la même chose.
Non, mais il y a un pouvoir qui est clair au moins au Real Madrid. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que Leonardo, dont on pensait qu'il allait, moi le premier, hein, qu'il allait remettre de l'ordre, est-il le patron du PSG? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide, par exemple, de l'avenir de Thomas Tuchel? Je ne suis pas sûr. Ça se jouera au Qatar, comme d'habitude. Donc il y a un moment, quand votre club est à la merci d'un réveil agacé d'un prince au Qatar, eh ben, ça ne peut pas fonctionner.
Comprends ce que tu veux dire, ce club est-ce que sur une décision aussi stratégique que ça,
les joueurs sont trop forts
sur ce point-là précisément. Est-ce que sur une décision aussi stratégique que le changement d'entraîneur, est-ce que la présidence effectivement a pas un moment son mot à dire? Enfin, c'est même pas
la présidence, c'est le Qatar.
Tourelle a été choisi. Mais c'est la présidence.
Tourelle a été choisi directement par l'émir. Après, c'est vrai que t'as l'impression que dans la communication, il y en a qui parlent directement à l'émir, l'autre c'est Leonardo. Enfin, on comprend pas ce qui se passe.
Ça peut pas marcher. Et moi, sur le long terme.
Et Laurent Blanc, finalement, si on est un peu moins mal sorti que les autres, pourquoi? Parce que c'est Laurent Blanc, parce qu'il est quand même relativement respectable aux yeux des joueurs parce qu'il a été champion du monde et qu'il a une grande carrière.
Il avait aussi beaucoup laissé de liberté.
Mais David, tu sais comment ça marche aujourd'hui? Pourquoi Zidane? Parce que c'est Zidane, Guardiola.
Oui,
il faut quand même que tu aies un passé de joueur, une grosse carrière pour que les joueurs te respectent un minimum.
C'était une bonne question, on aurait dû la poser comme cela d'ailleurs. Est-ce que le Paris Saint-Germain est entraînable? Et si on dit non, ça veut dire que ce sont les joueurs qui ont le pouvoir finalement.
Si on pose cette question-là, si on pose la question effectivement là où ça devient intéressant, je trouve c'est effectivement ça.
Sur
la structure du club que soulignait la façon dont le club est construit, je pense qu'effectivement la nature du manager, et ça rejoint également ce que disait Florian sur le fait qu'on a besoin de quelqu'un avec énormément de charisme et d'expérience certainement. Là, effectivement, je pense que le profil...
Mais ça ne veut pas dire que Thomas Tuchel ne fait pas d'erreur.
Je suis d'accord avec toi, mais je te dis effectivement que, du coup, le profil du manager, effectivement, pose question, parce que l'expérience et effectivement l'aura du joueur, pour pouvoir tenir dans un club comme ça, où ça secoue de partout, peut-être qu'effectivement, on n'a pas le bon profil.
Après, il y a pour revenir aussi aux joueurs, parce qu'il n'y a pas que Tuchel, effectivement, il manquait des joueurs clés à l'équipe, donc à Marquinhos, à Verratti, qui apporte énormément de verticalité, donc je pense que ça joue aussi.
Verratti, je ne sais pas trop ce qu'il apporte, mais
si, quand même, les visages du PSG avec Verratti n'a rien à voir. On aurait vu une équipe beaucoup plus agressive parce qu'il apporte énormément de verticalité au PSG. Pour moi, l'effet de s'être privé de ses joueurs, c'est ça qui justifie aussi ses résultats, mais pour moi, c'est tactique, c'est la manque de ses joueurs, des joueurs qui manquent d'envie. Et quand les joueurs manquent d'envie, c'est qu'à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas non plus...
C'est toujours la faute de l'entraîneur, mais ça, il y a quand même quelque chose quand même. Tu as des joueurs qui quand même sont payés des fortunes au Paris Saint-Germain. À un moment, on ne peut pas toujours les dédouaner. Ok, Thomas Tuchel fait des erreurs. Évidemment, on peut en parler, débriefer tous les aspects tactiques de la rencontre. Mais à un moment, l'état d'esprit, les joueurs ne peuvent pas s'abriter derrière. Oui, mais on ne comprend pas trop, etc. pour ne pas mouiller le maillot. Tu mouilles le maillot et puis après, tu parles avec ton entraîneur.
Non, mais par exemple, avec les changements qu'il fait ou les manques des changements.
Cindy, tu peux mettre tous les entraîneurs de la Terre. S'il est trois devant, ils décident qu'ils ne veulent pas défendre ou s'il y en a deux qui ne veulent pas défendre en Ligue des Champions, c'est impossible. Tu ne peux pas gagner un match.
Ils s'en sortiront jamais.
D'ailleurs, tous les grands matchs qu'ils ont fait, si vous prenez par exemple le Paris Saint-Germain-Liverpool, les trois devant, pour le coup, avaient énormément couru et défendu.
Ou au Final Eight, parce qu'ils étaient décidés que peut-être ils avaient
fait. Au final, il n'y a pas de solution alors.
Moi, je pense que il y a un problème au PSG, c'est que tu as deux superstars et que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que un à gérer, c'est très compliqué, mais tu as les deux. Et que Neymar et Mbappé, je pense que malheureusement, il ne peut en rester qu'un comme des Highlanders. C'est impossible, à mon avis, avec deux tels joueurs. D'aller au bout.
Le rachat, c'est pour ce soir face à Dijon?
Ça dépend de l'équipe qui va lier.
Je suis provocateur.
Je me permets de citer l'équipe et mes confrères, je crois que c'est Damien, Degor, je sais plus. Ils annoncent que Danilo va être titularisé en défense centrale et que Marquinhos, qui lui est un défenseur central, va être titularisé au milieu de terrain.
Si
cela se confirme, c'est clairement. Clairement,
un suicide.
Non, mais Thomas Tuchel, oui,
il
fait un doigt d'honneur à
Leonardo. Decision provocation, comme aurait dit le grand Jacques.
On aura une autre réponse entre 20h et 23h, la feuille de match, si c'est confirmé, évidemment. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Et on attendra, évidemment, la physionomie de cette rencontre à partir de 21h à Suisse sur l'antenne de RTL. La publicité est derrière la publicité à 19h31. À ce moment-là, nous parlerons du football français. Le foot pro, le foot amateur, est-il proche de l'implosion? À tout de suite.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match à 19h30 en compagnie de David Aiello, de Cindy Colmenares, de Florian Gazan et de Sébastien Tarago. À 19h45, ce seront les tirs au but.
Je tente une panenka ce soir.
Toute une série de sujets qui n'ont pas été, qui ne vous ont pas été transmis. Mais pour l'instant, on va parler de l'état du football français, car avec cette question, le football professionnel, mais également amateur, est-il au bord de l'implosion ? Alors, on ne va pas s'arrêter uniquement, même si c'est très important, peut-être sans doute même vital et décisif pour la Ligue 1 et la Ligue 2 sur les différents épisodes concernant Mediapro. Cette semaine, conférence de presse de Rouès pour dire finalement que il était droit dans ses bottes et qu'il demandait, qu'il réclamait, quasiment qu'il exigeait une négociation. Donc pour l'instant, le bras de fer continue, hein, puisque cette conciliation suspend toute activité et tout règlement pour environ 3 mois. Donc,
c'est bien joué.
Voilà, donc pour l'instant, ça c'est la tactique de Mediapro. Et puis je voudrais aussi vous donner quelques illustrations de ce football en vrac. Maintenant, il y a le couvre-feu dans, de mémoire, environ 54 départements.
C'est ça.
Ça veut dire que pour les footballs amateurs, le football national, qui est en vrac ce week-end, 5 matchs reportés. Et ce ne sont pas les 5 premiers qui sont reportés à cause donc de l'impossibilité ou à organiser ces rencontres pour le retour du couvre-feu ou du coronavirus. La Ligue 2, je le disais tout à l'heure, Grenoble-Nancy, des cas de coronavirus à Grenoble, match reporté. La Ligue 2 encore, cet après-midi, il y avait Caen-Guingamp dans les loges, les VIP, qui sont aussi quand même pourvoyeurs de ressources, eh bien ces loges étaient fermées. C'est-à-dire, messieurs, vous pouvez venir assister au match, mais il n'y a pas toutes les prestations d'hospitalité. Mmh. Donc à un moment donné, les annonceurs, les sponsors vont lever le petit doigt en disant, il va falloir aussi vous rembourser.
Moi, j'étais payé petit four, je vais manger.
Et donc là, le match de 15h de demain en Ligue 1, 13h pour la Chine.
Absolument.
Hein, le match pour la Chine.
Ah bah oui.
11-4 coronavirus reporté à une autre date.
C'était Lens-Nantes, ça, que les Chinois ont loupé quelque chose.
Ma question, le football,
vous voulez le voir en plus.
Professionnel amateur est-il au bord de l'implosion ?
Mais oui, forcément.
Sébastien,
aujourd'hui, il y a déjà des prêts qui ont été effectués pour autour de 500 millions d'euros. Un jour, les prêts, il faut les rembourser. Il y a des prêts à taux zéro ou quasiment, et puis il y a des prêts à 4-5%.
Alors ça, c'est pour la Ligue 1 et la Ligue 2.
Oui, mais on va le dire, on va le rappeler aux gens, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le football professionnel aide le football amateur à travers les droits de télévision, à travers la taxe de Marie-Georges Buffet.
Environ 50 millions d'euros.
C'est 5%. Donc 5%, même le sport dans son ensemble.
5%. Ouais. Oui, tout à fait. 5% des droits de télévision vont vers le football amateur. C'est considérable. Donc, effectivement, c'est un ruissellement, comme le mot est utilisé souvent en ce moment, qui ne va plus exister non plus. Mm-hmm. Donc, ça va être terrible aussi pour le football amateur. Moi, la plupart, de toute façon, ne jouent plus. Hein. Moi, mon fils joue un petit peu au volleyball. Il est entraîné par des jeunes qui sont en National 2. Alors, c'est pas un très haut niveau en National 2 au volleyball, mais c'est quand même National 2. Ouais. Et ils ne jouent plus au volleyball, ces gens-là. Ils ne peuvent plus.
Le football français est-il au bord de l'implosion, professionnel et amateur confondus, David Aiello ?
Bon, on est obligé de dresser ce constat. Je pense que dire autre chose, ça serait faire un véritable déni. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que il y a quand même deux aspects dans cette crise actuelle. Il y a la crise sanitaire. Et ça, pour le coup, le football français a plutôt subi les événements. Alors après, quelque part, on pourrait le regretter aussi, en se disant peut-être que le football français dans son ensemble n'a pas été assez capable d'influencer sur le pouvoir politique, comme ça a pu être le cas en Espagne, en Italie, ou chez quasiment tous nos voisins. Donc ça, c'est le premier aspect de la crise. Et on subit, et on peut finalement quelque part le comprendre. L'autre aspect, c'est évidemment ce qui se passe avec Mediapro, qui, comme Sébastien vient de le rappeler, un impact également considérable. Et là, j'ai plutôt le sentiment que le football français s'est mis dedans tout seul. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon, il y a des nouveaux dirigeants désormais à la Ligue. Quelque part, on a peut-être la chance que Vincent Labrune se désigne. Et c'est vrai qu'il a des qualités là-dessus comme un gestionnaire de crise. Parce que là, on est dans une énorme crise, sans doute la plus grande qu'ait connue le football professionnel français.
Vu ce qu'on vit, c'est pas Vincent Labrune qui fait laisser Jésus. Parce que il va falloir faire des miracles quand même pour sauver le football français. Parce que dans cette histoire de Mediapro, évidemment, Mediapro a peut-être essayé de négocier un petit rabais. Mais du coup, les petits copains Canal et Bein, pourquoi nous, on n'aura pas un petit rabais?
Donc, oui, c'est
encore de l'argent en moins. Et puis le plan sanitaire, malheureusement, plus on avance, moins on sait. Là, on commence à nous dire qu'on va peut-être se traîner ce virus jusqu'à cet été. Donc ça veut dire que toute la saison va vivre au rythme du virus dans des conditions qu'on ne sait pas. Couvre-feu, est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce qu'on va avoir un reconfinement? C'est pas impossible. Emmanuel Macron a agité cette menace. Donc on est quand même parti dans un très grand tunnel.
Parce que la question qu'on peut se poser, c'est s'il y a le confinement, est-ce que les joueurs sont en état professionnels d'exercer leur métier précisément, s'ils peuvent jouer, continuer à jouer au football, ou si c'est confinement.
Ça dépendra
confinement,
de l'État. Ah oui, c'est une vraie question. De l'État. C'est l'État qui décide.
Mais vous voyez l'histoire de Mediapro, là. Les matchs de Ligue 2 qui démarrent à 19h et avec des supporters qui doivent ensuite prendre la route et peut-être dépasser l'horaire du couvre-feu dans ces 50
pays. Ils n'ont pas d'attestation. Hein.
C'est un vrai problème. Et je dois dire que la Ligue ou n'ose pas ou n'a pas envie de demander à Mediapro de faire un effort pour avancer les matchs. Si ces matchs avaient lieu au moins à 18h, alors il y a peut-être concurrence effectivement avec le match de Ligue 1, enfin tout est compliqué. Mais là, c'est la Ligue 2 également qui, qui joue sa survie, sans spectateurs, même si parfois dans certains stades, les jauges peuvent être encore respectées avec 1000 ou 5000 personnes. C'est un vrai problème également pour la Ligue 2, pour tout l'écosystème.
Mais c'est pour tous les footballs. Moi, je regrette vraiment, c'est qu'il n'y ait eu personne au football français pour, parce que ça s'est voyé, on voyait vraiment avec les ambitions qu'avait Mediapro qui semblaient vraiment dépassées par rapport à la réalité du football français, qu'on allait se retrouver dans cette situation. Donc maintenant, comme tu l'as dit à juste titre, Florian, l'histoire, c'est qu'on se retrouve à se dire d'autres chaînes de télévision, pourquoi est-ce que ça ne serait pas négocié pour qu'ils puissent récupérer du coup des droits et vraiment pouvoir faire que ça fonctionne à nouveau, qu'il y ait l'argent qui soit encore distribué.
Non, mais ça, on sait que la situation, elle est extrêmement complexe et que ça peut pas se faire. Bon, et voilà, il y a tout simplement des contrats en cours entre les parties et que la conciliation, elle prévaut surtout. Donc, la vraie question, c'est effectivement sur même ne serait-ce qu'à moyen terme, parce que Sébastien a rappelé les prêts qui ont été contractés déjà pour pratiquement un demi-milliard. Bon, bah voilà, tout ça a un coût. Et puis surtout, au bout d'un moment, on va pas pouvoir non plus vivre à crédit. Enfin, le football français va pas pouvoir vivre à crédit pendant très longtemps. Moi, je pense que là, sur la saison, il y a des véritables inquiétudes à avoir, certainement sur le début de l'année 2021 pour certains clubs, pour les plus fragiles. Je pense que ça va être très très compliqué de tenir.
Et il y aura peut-être une phase importante également pour le football français, c'est le mercato du mois de janvier, c'est-à-dire que les joueurs qui n'ont pas été vendus, oui les joueurs, mais les dirigeants qui n'ont pas vendu, pensant pouvoir conserver une ossature malgré la crise, vont devoir se débarrasser peut-être de plusieurs joueurs à destination d'autres championnats qui connaissent également la crise économique,
le problème, c'est ça.
Mais qui la gèrent peut-être. Et je ne sais plus qui disait cela, et c'est terrible, nous risquons d'être le paillasson du football anglais, espagnol, italien.
Oui, parce qu'il y a un point également qu'on n'a pas rappelé, c'est que le fait de ne pas avoir terminé notre championnat a eu un impact sur les droits télé, également très important pour la Ligue 1. Donc du coup, ça nous a également fragilisé. C'est-à-dire que la période était déjà compliquée, et le fait d'avoir perdu ses droits télé, ce qui n'a pas été le cas, ou pas, en tout cas pas dans ces mesures, pour l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie, nous a encore davantage fragilisé. Déjà qu'on n'était pas très, on n'avait pas les moyens de rivaliser avec ces pays. Là, effectivement, là, je pense que les clubs anglais sur le mercato d'hiver, ils vont se régaler. C'est-à-dire que là, les clubs français vont être à l'agonie et ils vont être obligés de vendre à moindre prix.
Encore faut-il qu'ils aient de l'argent pour acheter les clubs anglais, parce qu'on a vu avec cette crise qui touche tout le monde, le mercato d'été, enfin d'automne, vu les dates, il n'y a pas eu non plus des transferts faramineux.
Ah, t'en as quand même quelques-uns. Enfin,
ouais, mais enfin,
moins, bien
par rapport aux autres années, et tu sens bien qu'eux aussi font très très attention, parce qu'ils sont impactés, peut-être un petit peu moins que nous, parce que peut-être qu'eux reposent beaucoup moins sur les droits télé que nous, et il faudra aussi que le foot français se pose les bonnes questions à partir de là. Mettre toujours tous ces deux dans le même panier, c'est un problème, mais je ne suis pas sûr qu'au mercato d'hiver, les clubs français, on pourra récupérer tant d'argent que ça.
Et Sébastien l'expliquait également tout à l'heure, ça concerne l'ensemble du sport, mais si on revient au foot, parce que c'est on refait le match, c'est un vrai casse-tête, je puis vous l'assurer, pour le football amateur également. Pour les entraînements le soir, couvre-feu, il faut le respecter. Les matchs le dimanche après-midi, certains districts ont avancé d'une heure les coups d'envoi des rencontres, et ça va être un vrai problème également pour le football amateur. Voilà messieurs, madame, 19h39, on va tourner une page de publicité et puis tranquillement, on va se diriger vers les tirs au but avec une série de 5 à 6 questions que j'ai sous les yeux. Attention.
Mais nous, non, on les a pas fait.
Ah non, vous ne connaissez pas. Vous savez que, voilà, il y a beaucoup d'émissions sportives où on transmet les thèmes aux débatteurs, il faut le dire. Ouais, beaucoup d'émissions politiques où les invités savent.
Vous révélez des
petites soirées.
Ils transmettent leurs réponses des fois.
En tout cas, je voulais juste vous rassurer sur quelque chose.
Oui.
C'est-à-dire que du côté du FC Barcelone, Ronald Koeman, les dirigeants, ils sont d'accord avec vous, il n'y avait pas pénalty.
Il n'y avait pas pénalty. Mais ouais,
c'est
mais
bizarre ça. C'est
étrange. Il y en a qui connaissent le football.
Voilà, c'est ça.
Et il y en a qui le commentent.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Une vingtaine de minutes d'On fait le match en compagnie de Sébastien Tarrago, Florian Gazan, David Aiello et Cindy Colmenares. Entre 20h et 23h, vous retrouverez les quatre mousquetaires du football, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, ça envoie, hein, et Quentin Vasselin.
Mais qui est qui?
Ouais, c'est ça, c'est qui est
Daniel
Et Aramis, on ne sait pas. Et le cinquième mousquetaire sera au Parc des Princes.
Très bien.
Nicolas Jorgerot pour les commentaires de
du
PSG Dijon. Tiens, un PSG, on le sait, hein, sans Cavani, mais Cavani qui a fait son entrée à la 55e minute.
Qui va la faire, non?
Qui va, il va, je crois.
Il l'a fait.
Ouais, ça va se jouer dans quelques instants.
Avec Manchester United, Chelsea, c'est ça, 0-0.
Ouais, numéro 7 comme CR7.
Vous étiez déçu de ne pas voir Cavani au Parc des Princes cette semaine?
Moi, j'aurais bien aimé le voir, bien sûr.
Oui, après, il n'y avait pas les supporters, donc ça a retiré de toute façon quelque part aussi le côté. Non, mais c'est vrai.
J'aime bien quand il y a des réactions.
Non, mais j'aurais bien. Ça m'aurait beaucoup amusé de voir l'attitude des uns et des autres, parce qu'on comprend avec le temps et quelques mots qui partent ici et là que Cavani n'était pas toujours très apprécié par certains.
En tout cas, son entourage à Cavani, je ne sais pas Cavani, hein, mais son entourage était bien content que Cavani rejoigne les camps inverses et aurait bien voulu le voir jouer contre les PSG.
Je voudrais qu'on soit sérieux deux petites secondes. Je voudrais dédier.
Nous, on
va
avoir du mal. Hein. Deux secondes, c'est long.
Je voudrais vraiment qu'on dédie ce On fait le match au petit Lucas, 8 ans, qui est un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Le petit gamin a été malheureusement malade pendant des mois et des mois, hospitalisé, supporter du Paris Saint-Germain avant la finale de la Ligue des Champions PSG Bayern. Il avait envoyé une vidéo très touchante aux joueurs du Paris Saint-Germain et cette vidéo avait retenu l'attention de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé, qui lui avait fait la promesse de venir le voir après la finale. Finale perdue, mais il est venu le voir. Moi, j'ai trouvé les photos vraiment touchantes. C'est-à-dire, le gamin avait le maillot du PSG. Ouais. Et il était sur les genoux de Mbappé. Il avait la banane. Il avait un sourire absolument extraordinaire. Et il nous a quittés jeudi. Voilà. Donc, je voulais qu'on lui dédie cette émission. Et je voudrais saluer le travail formidable que fait l'association Les Petites Bosses, qui essaye de réunir et des fonds, mais aussi des objets de foot, des maillots, etc. Pour bien soutenir les familles, pour les offrir aux gamins, pour faire avancer la cause, comme on dit, mais aussi pour leur changer les idées. Et c'est vraiment, de la part de cette association Les Petites Bosses, une très, très, très belle initiative.
On peut aussi faire une petite pensée pour Bruno Martini, qui nous a quittés cette semaine. Et là, ce soir, je crois que Auxerre joue avec un maillot exceptionnellement noir pour lui rendre hommage. Voilà, c'était quelqu'un aussi qui a marqué l'histoire du foot français, l'équipe de France. Voilà.
Ça va être l'objet, notamment, mais pas seulement, des tirs au but ou des pénaltys. Alors attention, je rappelle le règlement, la question arrive, le coup de sifflet, vous devez l'entendre, et vous vous emparer du micro pour y répondre. Et de façon
c'est des pénaltys ou des tirs au but? Parce que c'est pas la même préparation psychologique, moi j'ai besoin de savoir quand même. Et c'est tirs au but.
Et si vous avez les pieds pas sur la ligne, c'est retiré, parce que moi j'ai vu mercredi apparemment.
Ça joue à pas grand chose.
On dit pénalty, c'est dans le langage un peu plus commun.
Ouais.
Alors justement, Bruno Martini, on le sait malheureusement, décédé cette semaine à 58 ans des suite d'un infarctus. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on essayait de lui envoyer des ondes positives au pauvre Bruno. Souvenir avec, pour vous, ou la JOCR, ou Montpellier, ou l'équipe de France. Le souvenir vraiment le plus prégnant.
Non, mais c'est la JOCR.
C'est la JOCR.
Pour moi, c'est évident que...
Pourquoi?
Il a marqué l'histoire de ce club, il y est resté extrêmement longtemps. Quand il est allé à Montpellier, ça allait déjà un peu moins bien. Il était plutôt sur la phase descendante. En équipe de France, malheureusement pour lui, il n'a pas participé aux plus grandes prouesses du football français. C'était pas les meilleures années. Il a une trentaine de sélections, je crois.
C'était pas la meilleure séquence équipe de France également.
Bien sûr. Et donc, c'est évidemment à la JOCR où il a marqué l'histoire de ce club à travers certaines épopées, notamment européennes, évidemment, où il était dans le but, avec une personnalité singulière, donc non, c'est Auxerre pour moi.
Oui, non, mais bien sûr que peut-être sur les émotions, c'est Auxerre. Après, quelque part, moi, son visage et peut-être son sourire reste attaché à l'équipe de France, parce que voilà, il faisait un peu, il a longtemps fait partie du groupe, du staff, donc si je dis pas de bêtises, c'est lui qui
fait le plus souriant.
Non, c'est vrai, c'est pas la chose qui me vient à l'esprit, tu as raison, mais peut-être que justement, les faux ont eu sourire, ça a été marquant.
Si on doit la vérité aux auditeurs, de temps en temps, certains de nos confrères également disaient, on a un bon client, mais c'est un peu tristos. C'est-à-dire, c'était un peu langue de bois, mais moi j'adorais sa voix grave. voix de Stentor quand il était sur le terrain, voix de Stentor parfois dans les vestiaires. On n'oublie pas aussi, attention, hein, c'était un faux calme, hein, Bruno Martini. Il s'est frité avec Eric Cantona dans les vestiaires.
Ouais, alors si on est tout à fait honnête sur l'anecdote, c'est surtout Eric Cantona qui
a gagné un joli
coup. Il n'avait pas été content.
Mais là, c'est pas. Bon, allez, c'est pas grave, c'est connu, mais c'est pas très sympathique. Giroud avait demandé à ses joueurs de déneiger le terrain un jour de match, je crois, ou un jour d'entraînement. Et ça lui plaisait pas trop à Bruno Martini. Donc il le faisait pas, il restait sur.
Oh, mais Cantona,
assis sur le ballon. Oui, mais Cantona, il le faisait. Et quand on a vu que Martini le faisait pas, ça s'est mal fini, effectivement. Très, très mal.
En tout cas, c'était un
amoureux. C'est pas grave, c'est des histoires.
Et il adorait la musique, il jouait aux échecs. Enfin, c'était un garçon intelligent, intéressant.
Mais oui, mais en tout cas, c'est vrai que David a raison de rappeler qu'il a été très longtemps dans le staff de l'équipe de France, notamment en 2000, si je dis pas de bêtises, les champions d'Europe. Puisqu'il a succédé à Philippe Bergerot.
Et finaliste du mondial 2006 également.
Oui, absolument, puisqu'il a connu trois sélectionneurs, Lemaire, Santini, Domenech. Et donc, il est resté jusqu'en 2010, et malheureusement il a assez mal vécu après la fin de sa carrière à la DTN, puisqu'il était il avait quitté le staff après le départ de Raymond Domenech. Il était resté 3 ans je crois à la direction technique nationale, qu'il avait fini par quitter. Il en était pas très heureux. Et il faut quand même rappeler aussi, parce que le monde du foot est quand même globalement abominable, pardonnez-moi, mais à ce moment-là, il a su se retourner vers un club qui est celui de Montpellier. Moi, j'ai pas d'action là-bas.
De Nicolas.
Mais globalement, quand les anciens ont des problèmes, Montpellier est toujours là.
Souvent. Mais c'est ce que je retiens aussi, moi, de Bruno Martini, finalement, c'est que c'est Auxerre, les Bleus et Montpellier. Donc, c'est quelqu'un aussi qui s'inscrit souvent dans la durée, dans des projets. Donc, c'était quelqu'un de fidèle. Et voilà. Et ça prouve aussi sa compétence s'il est resté aussi longtemps à ces postes-là, là-bas.
Une petite pensée à son épouse et à ses deux filles. Le roi Pelé. Vive le roi, lui, a fêté ses 80 ans cette semaine. Alors tiens, une petite question quiz, hein, même si j'aime pas les jeux, mais question quiz, combien de buts?
1231.
Non.
C'est dans ces
d'abord, vous êtes le coup de sifflet.
Ah, pardon.
S'il vous plaît, merci.
Alors, mais déjà, ils sont pas d'accord. Hein.
Alors, 1000...
Mais c'est plus de 1000, ça, c'est sûr.
Ouais, c'est 1182.
Beaucoup plus.
Ah ouais, 1300.
Moins.
Ah bah donc j'étais pas
1218.
Loin.
Mais c'est le juste prix, il y a le tyrolien. 1224.
1240.
Ah, 1282.
Ah, très bien. Voilà. Il y a beaucoup de polémiques sur ce chiffre,
oui,
puisque on racontait notamment que à l'époque, pour des raisons financières déjà, son club faisait organiser beaucoup de matchs amicaux et parfois un peu ridicules, et il mettait beaucoup de buts et il les comptait tous. Peu, ouais.
Mais la voix ensoleillée de son fait le match devrait nous parler du roi Pelé, Cindy Colmenares.
Pour nous, c'est
jeune.
Vraiment, c'est les joueurs sud-américains qui nous représentent les mieux. Enfin, c'est comme ça qu'on les sent, nous, les sud-américains, parce qu'il est humble, parce qu'il a toujours donné un beau football qu'on a envie de regarder. Et évidemment, il y a eu des Messi, et il y en a eu d'autres, des Neymar et de ce que vous voulez, mais personne n'a réussi à prendre cette place. C'est avoir cette aura qui a quand même.
Tu as raison. Malheureusement, il est très vite. Ça a été un joueur, mais bref, immense. Mais malheureusement, il est très vite devenu un panneau publicitaire ambulant. Et alors, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, évidemment. Hein, mais on lui a parfois reproché de ne pas se servir justement de cette aura extraordinaire en Amérique du Sud pour ne pas porter aussi
il
certains combats.
Sports,
il l'a fait par moment. Il l'a fait par moment.
On ne peut pas dire qu'il ait une conscience sociale très forte.
Non, allez, bon anniversaire en tous les cas au roi Pelé. Les tirs au but suite. Et on attend le coup de sifflet, s'il vous plaît, de l'arbitre. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah oui, ça c'est pas mal ça. Macédoine du Nord 0. Oula. France 11.
Ah oui, d'accord.
Vive la crise. Mais quelle crise?
Alors la crise, je pense que c'est si quand même, hein, si c'est un match où l'adversaire était quand même beaucoup à la portée. On verra comment ça se passe face à l'Autriche. Moi, je pense que la crise vient plutôt aussi entre les joueuses et Colin Diacre. On l'entend, même si elle a envie de nier et de dire qu'il n'y a pas d'inconfort, en tout cas au sein de son équipe. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Là, ça s'est pas vu parce que l'adversaire, il n'était pas brillant.
Ça s'est déjà vu à la Coupe du Monde,
bah
Cindy.
Oui. Aussi.
Parce que malheureusement. Il se trouve que la densité du football féminin n'est pas très importante, et donc tu joues beaucoup d'adversaires que tu bats très facilement. Et puis après,
sauf les États-Unis.
Et voilà. Et après, quand tu arrives sur les grandes compétitions, eh ben, tu réussis ta compétition si tu vas en finale, on va dire. Et puis tu la rates si tu vas en quart, si t'es éliminé en quart. Donc, on peut pas savoir. Quand Noël Le Graët dit qu'elle travaille bien, Corinne Diacre, oui, c'est gentil. Elle gagne des matchs, mais contre des adversaires.
Après, il y a des améliorations quand même des quelques joueuses. Je pense notamment à Sakina Kachaoui, mais je reste quand même dans les domaines du football féminin, en fait, qui s'améliore et qui ça s'embellit quand même un petit peu, mais.
Franchement, tous ceux qui ont travaillé dans le football féminin, parfois ils ont dit que c'est pas facile. Franchement, gérer un groupe de filles aujourd'hui, franchement, c'est pas simple. Tout le monde le dit.
Il paraîtrait même qu'il y a des agents qui se désengagent de leurs activités de football féminin.
Oui, parce que c'est complexe. C'est complexe. Alors, c'est aussi parce que c'est des crises de croissance. Oui, mais c'est des crises de croissance aussi.
Après, il n'y a pas beaucoup d'argent.
C'est lié au fait qu'il y a des envies de. Ouais. Bah, l'argent arrive.
Bien sûr.
Et donc, il y a des envies qu'on peut comprendre. Mais tu ne peux pas gérer l'équipe de France, l'équipe nationale, avec. La guerre permanente avec tes meilleurs joueurs, c'est pas possible.
Dit, mon poste fait des jaloux.
Bon. Oui, mais très bien.
Oui,
oui.
C'est une façon de justifier les choses.
Mais... Je le dis à chaque fois, mais quand elle était au Clermont Foot,
c'est pareil.
C'était déjà très problématique. Elle a un caractère très particulier.
Parfois aussi avec ses joueuses, elles ont besoin d'être en confiance. Ouais. Et parfois, c'est vrai qu'on a vu des changements, des personnes qu'elle fait rentrer, elle ne fait pas rentrer. Donc, un joueur, elle a besoin aussi d'avoir cette confiance renouvelée.
Il y a quelque chose qui m'embête sur la communication, sur son management. C'est qu'on ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Là, ça fait des années que ça dure. Et ça revient tout le temps. Et en fait, il n'y a aucune remise en question. Donc, à un moment, ça devient problématique.
Vous savez ce que sera le football de demain ? C'est qu'entre chaque tir au but, il y aura de la publicité.
C'est vrai?
Très bien. Donc, prochain tir au but, prochain pénalty à suivre.
Eh ben.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite, la fin des tirs au but avant RTL Foot et notamment l'intégralité de Paris Saint-Germain-Dijon. Tiens, celle-ci me plaît beaucoup. Ce pénalty me plaît beaucoup. Cette séance, d'ailleurs, m'a ravi. Bielsa, entraîneur de Leeds hier, 3-0. Vainqueur d'Aston Villa. Alors, madame, messieurs, êtes-vous converti à la Marcelo Bielsa attitude?
On l'a toujours été. Enfin, moi, en tout cas. Moi, je pense
c'est limite. C'est très limite.
Non, mais il nous montre que sur les terrains, il donne en tout cas quelque chose qui s'appelle un très beau football. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui adorent Bielsa, qui adorent l'école Bielsa, parce qu'à chaque fois, on se régale. Et les résultats sont là.
Moi, j'aime que ce personnage existe dans le milieu du football. En revanche, non, je ne tomberai pas dans la Bielsa mania, mais qui me paraît parfois excessive et un peu... excessive, allez, on va rester gentil. Mais moi, j'attends, c'est formidable ce qu'il réalise, comme souvent. Moi, j'attends de voir si ça va durer toute la saison, parce que on en revient toujours à la même histoire. Son football est très éprouvant physiquement, et est-ce que ses joueurs pourront tenir la cadence? Moi, j'aimerais, hein, j'espère, je le souhaite, et en tout cas, je suis ravi que ce personnage existe.
Oui, c'est fait partie. C'est bien d'avoir des personnages un petit peu atypiques dans le football. C'est tellement lisse. Après, là, ce qui est intéressant cette saison avec Bielsa, c'est qu'à Leeds, il a vraiment les moyens, c'est-à-dire qu'il a pu recruter, il a acheté beaucoup de joueurs, à mon avis, il en prendra encore cet hiver. Donc là, on ne pourra pas avoir l'excuse de l'effectif trop court, l'effectif français, parce que c'est vrai que c'est un football qui est extrêmement compliqué à gérer sur une saison. On l'avait vu avec l'OM, hein, ils sont effondrés en fin de saison parce que les mecs en pouvaient plus physiquement et même psychologiquement, parce qu'il y a une pression quand même, des schémas tactiques à digérer, la vidéo, etc. Là, Leeds, il a vraiment toutes les cartouches pour faire quelque chose. Donc c'est intéressant cette saison.
Ça. Non, mais pour que la Bielsa mania, si elle doit s'installer vraiment, effectivement, faudra un moment quand même que ça finisse par payer. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire quand même sur une phase où et puis je vous rappelle aussi les conditions quand même rocambolesques de son départ de l'OM, donc on peut pas non plus avoir que du farfelu ou du temporaire autour de Bielsa. À un moment, effectivement, il va falloir que ça paye, et là, comme tu l'as dit Flo, il a les moyens, donc on attend, mais pour le coup, si ça se fait, bah tant mieux, ça sera effectivement il marquera les esprits. Ouais.
On termine toujours ces pénaltys, cette séance de tir au but, avec le match du soir, PSG Dijon, coup d'envoi 21h sur l'antenne de RTL. On a parlé du Paris Saint-Germain tout au long de ce On fait le match. En attendant précisément la composition de l'équipe, la feuille de match, faut-il faire souffler certains titulaires avant le double déplacement en Ligue des Champions?
Oui.
Oui. Allez, on te l'accorde.
J'ai mordu un peu.
C'est retiré.
C'est
bienveillant.
Le VAR, pourquoi faire? T'es un demi-mètre devant là.
Attendez, ça va, c'est pas retiré. C'est moi. Oui, il faut évidemment, parce que avec cette défaite préliminaire contre Manchester mercredi, ça change beaucoup de choses. Il va falloir aller gratter des points, récupérer ses points, donc aller gagner déjà mercredi ou mardi prochain. Donc nécessairement avoir sa meilleure équipe. Mbappé a beaucoup joué parce qu'évidemment Didier Deschamps, lui, il a fait ce qu'il voulait, donc il l'a pas préservé plus que ça. Donc Mbappé, c'est sûr qu'il faut le faire souffler. Après, certains autres, il y a les petits pépins.
Kimpembe, aussi.
Voilà, c'est Dijon. Normalement, quand même, Paris avec son effectif doit battre Dijon sans ses cadres.
Et avec une compo qui prêtera peut-être, sinon à la polémique, en tout cas à la discussion. On verra cela derrière les informations de 20h. Avec Baptiste Durieux, les derniers messages et les résultats à la mi-temps comptant pour la Ligue 2, Baptiste.
Absolument, beaucoup de messages sur votre débat sur la performance des clubs français en Ligue des Champions. Et figurez-vous qu'on parle de l'Olympique Lyonnais, puisque Lionel nous dit un respect éternel est dû à l'Olympique Lyonnais de la part des autres clubs français pour la simple et bonne raison que c'est l'unique club qui a représenté le pays en Europe sur les 25 dernières années sans s'être dopé par un rachat. Et puis Pierre aussi, message qui n'est pas très positif, mais qui nous dit serait-ce typiquement français d'être incapable de se remettre en cause. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire qu'on accepte que non, nos clubs ne font pas partie de l'élite, non, notre championnat ne vaut pas un milliard, non, il n'y a pas de Big Five européen. Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter la méthode Coué. La France est une nation mineure du football. Ça, c'est dit. Et puis effectivement, les scores de la Ligue 2, c'est la mi-temps 0-0 entre Clermont et Ajaccio, un partout entre Troyes et Valenciennes. 2-1 pour Pau face à Niort. Le Paris FC leader qui mène 2-1 sur la pelouse de Châteauroux. 1-0 pour Toulouse face à Rodez. 1-0 pour Le Havre sur la pelouse de Dunkerque. Et 3-0 pour Auxerre face à Chambly.
Merci beaucoup Baptiste Durieux. Merci à Dany pour la réalisation. Fin de ce On refait le match qui est passé à la vitesse de l'éclair. Voilà, merci vite. Beaucoup Cindy Colmenares. Merci David Aiello. Merci Florian Gazan. Merci mille fois Sébastien Tarago. Et à très bientôt évidemment dans On refait le match. Derrière les informations de 20h, RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Quentin Vasselin. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.